Bienvenue dans Science de Poche, le podcast des petits débrouillards qui répond aux questions sur le monde qui nous entoure.
Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Alexandre Pess. On se retrouve pour un nouvel épisode de Science de Poche avec les petits débrouillards. Je suis avec Tiphaine Delatouche aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Tiphaine?
Oui, bonjour, Tiphaine Delatouche. Je suis chargée de mission Natura 2000 à Lorient Agglomération, au sein de la direction Environnement et Développement Durable et de l'unité Nature et Biodiversité.
Merci, Tiphaine. Sans plus attendre, on va se plonger dans le sujet du podcast d'aujourd'hui, à savoir les plantes. Nous avons posé une première question aux jeunes habitants de Lanester. Comment une plante grandit? Écoutons un peu leur réponse.
Grâce à la lumière et l'eau.
Enfin, avec le soleil, l'eau et la terre déjà, enfin, ces trois trucs.
Ça commence par une graine, ensuite par un bulbe qui va créer des racines, une tige. Ensuite, la plante va faire sa photosynthèse pour pouvoir se développer.
Déjà, elle se nourrit d'eau, de minéraux.
Alors, les plantes, donc, ce sont des végétaux qui vont pousser dans la terre pour la plupart. Et pour ça, elles ont besoin de différents éléments vitaux. La première chose, ça va être un besoin d'eau. L'eau, c'est la vie. Donc, on est tous composés, animaux comme plantes, d'une grande quantité d'eau. Donc, indispensable pour la survie. De nutriments. C'est un peu la nourriture des plantes, les nutriments. Donc, en fait, elle va puiser ses nutriments soit dans le sol, soit dans l'eau. Et ça, c'est ce qui va permettre à la plante de construire la matière qui la compose. Et ensuite, pour exploiter ses nutriments et grandir, elle a également besoin de lumière. On parle de la photosynthèse. Donc c'est la capacité de la plante à utiliser l'énergie du soleil pour transformer les nutriments qu'elle va puiser dans le sol ou dans l'eau pour en fabriquer du tissu végétal. Alors je peux vous citer différents types de façons de grandir pour les plantes. Il y a des plantes qui vont pousser dans des milieux faciles pour elles, parce qu'il va y avoir beaucoup d'eau. Donc là, les milieux, ça va être les zones humides, à proximité des cours d'eau, parce que la terre est gorgée d'eau. Elles ont aussi beaucoup de nutriments. Par contre, dans d'autres endroits, c'est beaucoup plus dur de pousser. Par exemple, en bord de mer, il va y avoir peu d'eau, parce qu'il y a du vent. Le vent, ça sèche, ça évapore l'eau, parce que les sols sont drainants. Le sable ne retient pas l'eau. En plus de ça, des contraintes, des difficultés supplémentaires comme la présence de sel. Donc on a l'exemple du sédum, une jolie plante grasse. Et donc pourquoi est-ce qu'elle est grasse justement cette plante? C'est parce qu'elle retient l'eau au sein de ses tissus et empêche l'eau de s'évaporer pour pouvoir survivre. On parle de plantes crassulescentes. Dans les zones humides, je peux vous citer une plante qu'on remarque facilement, c'est le roseau, qui va faire des tiges fines et très hautes et qui va s'étendre sur de vastes étendues, laissant peu de concurrence aux autres plantes. Tandis que dans le cas du sédum, la petite taille de la plante va lui permettre de prendre peu de place sur le littoral et donc de laisser beaucoup de place à d'autres plantes. Et on va retrouver, grâce à ces difficultés de croissance, une inventivité des plantes pour survivre et donc une multitude, une grande diversité de stratégies de chaque plante pour survivre.
Tu as mentionné à l'instant que les plantes se répartissaient sur toute une zone donnée. Mais du coup, comment est-ce qu'elles font pour se reproduire? On a posé cette question également aux jeunes habitants de Lanester. Écoutons leur réponse à nouveau.
Quand on mange la pomme, dedans il y a les graines et après on plante les graines et c'est infini.
C'est comme par exemple les pissenlits.
C'est grâce aux abeilles, des fourmis et d'autres insectes qui vont de fleur en fleur et des fois qui vont sur le sol pour polliniser un peu la nature.
Ça peut se reproduire grâce aux graines qu'on met de l'eau dessus. Ouais, du coup, ça pousse.
Donc justement, les plantes ont plusieurs stratégies pour se reproduire. La stratégie des plantes à fleurs consiste à utiliser les insectes pollinisateurs. Donc les insectes, en fait, vont venir s'alimenter dans les fleurs pour utiliser le nectar, le pollen, et vont butiner de fleur en fleur. Donc, elles vont transporter du pollen, donc l'organe de reproduction mâle chez les plantes à fleurs, et vont venir dans les organes femelles pour assurer la fécondation. Ça va produire une graine sous forme d'un fruit, sous forme d'une noix, etc., qui va permettre à la plante ensuite de germer. Cette graine va germer et produire une nouvelle plante. Mais les plantes ont des stratégies aussi beaucoup plus rapides pour se reproduire. On parle de stratégies de reproduction végétative. Elles vont utiliser une partie d'elles-mêmes pour se reproduire. Le bouturage, par exemple, consiste à un petit morceau de plante replanté dans la terre, va permettre de faire une nouvelle plante. Il suffit qu'il y ait un bourgeon, un endroit où normalement sort une fleur ou une feuille, et ce bourgeon, au lieu de faire une fleur ou une feuille, va refaire une racine et produire une nouvelle plante. Beaucoup de plantes se reproduisent également par leurs racines, tout simplement. Elles étendent leurs racines et font naître une nouvelle plante un petit peu plus loin.
Moi, j'ai entendu parler des plantes invasives. Pourquoi est-ce qu'on les appelle comme ça? Et surtout, c'est quoi une plante invasive?
Si on en met une, si on en met juste un endroit, après, avec les graines qui s'envolent sur le dessus, il va y en avoir partout.
Alors, une plante invasive, c'est d'abord une plante qui n'est pas originaire de notre territoire. C'est-à-dire que, initialement, elle poussait ailleurs, très loin. Cette plante est arrivée par hasard, ou peut-être pas, plutôt grâce à sa stratégie de dissémination. Soit une petite graine est restée collée sous une chaussure, hein, une petite aigrette s'est coincée dans le poil d'un animal. Et en fait, avec l'ensemble des transports internationaux de marchandises, les plantes vont ainsi envoyer des graines à travers l'Atlantique sur des bateaux transportant des marchandises dans les avions et arriver sur notre territoire. Il faut également que la plante ait une grande capacité de dissémination et un pourvoi de concurrence important. Je vais vous citer quelques exemples de dissémination de plantes qui se disséminent par les graines. Le baccharis utilise la même stratégie que le pissenlit. Il va faire des fleurs avec de multiples petites aigrettes qui vont s'envoler avec le vent et se redéposer un petit peu plus loin. Une fois que les graines sont installées, elles vont concurrencer les autres espèces présentes, c'est-à-dire qu'elles vont pousser plus vite, bien collées, empêcher la lumière sur le sol et les autres plantes de pousser. D'autres vont avoir une multiplication par leur système racinaire, comme on le disait tout à l'heure, ou le bouturage, comme la renouée du Japon, qui est une plante assez élégante, avec des belles feuilles vertes, arrondies, et qui a été introduite pour faire du fourrage pour les animaux, initialement. Un simple fragment de quelques centimètres peut produire une nouvelle plante, et comme elle pousse au bord des cours d'eau, le fragment est facilement emporté par les courants quand une plante casse. Le problème, c'est qu'elle s'installe dans des endroits où d'autres plantes poussaient. Les pelouses littorales et les landes littorales, assez rares, peuvent être colonisées par la griffe de sorcière, qui, elle, est une plante crassulescente, exotique, mais qui va prendre la place de notre petit sédum dont nous parlions tout à l'heure. De plus, ces plantes exotiques ne répondent pas forcément aux besoins des animaux qui habitent dans l'écosystème, dans le milieu naturel. Donc la dissémination des espèces invasives va prendre la place de nos plantes locales, mais également va empêcher le bon développement et le bon fonctionnement de l'écosystème qui apporte alimentation, repos et reproduction aux espèces animales.
Merci pour cette conclusion, Tiffaine. Nous nous retrouverons plus tard pour un nouvel épisode de Science de Poche.